Bonjour et bienvenue dans Chambre avec vue, le podcast de BLR International. Il y a plus de 15 ans, Jean-Marc et moi avons créé BLR, une société de construction dans le sud de la France. Nous avons bâti des projets incroyables et avec ce podcast, le but est d'imaginer un lieu de partage de nos savoirs et de notre expérience. De vous faire découvrir des personnalités qui sont en train de révolutionner l'architecture, la déco, la construction, l'immobilier, les jardins et l'art de vivre en général. Je m'appelle Imogène et bienvenue dans Chambre avec vue. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons découvrir Jean-Marc Parnaud, le fondateur de BLR International. Le but n'est pas du tout de vous faire une publicité de 39 minutes, mais de vous faire les présentations. Vous allez découvrir l'histoire de Jean-Marc, une anecdote de chantier qui nous a marqué. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'agit de quelque chose en or. Et la philosophie qui nous porte au quotidien avec les clients de l'entreprise. Donc sans plus attendre, voici Jean-Marc Parnaud dans Chambre avec vue. Salut Jean-Marc et bienvenue dans Chambre avec vue. Comment ça va aujourd'hui ?
Mais ça va bien.
Ouais ?
Ouais, super.
Ouais. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs qui ne te connaîtraient pas ?
Alors, je suis Jean-Marc Parnaud, j'ai 48 ans et j'habite à Saint-Cyr-sur-Mer. En ayant beaucoup de chance d'habiter à Saint-Cyr-sur-Mer, je suis entrepreneur, donc je suis le gérant de BLR International depuis 15 ans. On a fêté les 15 ans un peu spécialement pendant le confinement, mais BLR était créé le 4 avril 2005. C'était le début d'une aventure un peu extraordinaire parce qu'on s'est rapproché de moi il y a une quinzaine d'années pour se servir de mes compétences et de mes équipes pour la construction d'un village de pierre et vacances en Ardèche. Donc on a commencé l'aventure de BLR sur un immense chantier qui était la construction de 270 maisons. Pourquoi ?
Non, je rigole, mais c'est impressionnant.
On a construit ces 270 maisons et ensuite le fait que ces travaux se sont relativement bien passés, Monsieur Brémond, le patron de Pierre et Vacances, nous a confié la construction de l'espace aqualudique et qui est vraiment les travaux qui m'intéressaient sur ce projet puisque c'était la construction de 1200 m² de plans d'eau avec des toboggans, avec des rivières sauvages et un ensemble complètement paysager. Et la réussite de ces travaux nous ont propulsé dans la continuité de cette aventure qui est l'aventure de BLR International.
Mais avant ça, c'était quoi ton premier job ?
Alors mon premier job, il remonte à très 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 longtemps parce que je suis donc fils d'entrepreneur. Fils d'entrepreneur acharné de travail, donc qui faisait que depuis mon plus jeune âge, j'ai passé mon temps sur les chantiers. Donc mon activité initiale principale était l'électricité, la plomberie et tout ce qui était la technique, dans lequel j'ai continué des études en faisant un bac technique de maintenance des systèmes mécaniques automatisés. Et à partir de là, j'ai commencé mon activité à 18 ans. En travaillant dans un groupe de fourniture de matériel piscine, qui était à l'époque le groupe PIC, sur lequel j'ai vécu une petite aventure de 6 mois, en démarrant en bas de l'échelle en tant que magasinier au mois de septembre, pour finir chef d'agence au mois de février. Et après ça, j'ai préféré arrêter et je suis rentré dans l'entreprise familiale pour m'occuper de la construction des piscines, et la partie construction et la partie commerce, qui me plaisait énormément. En alternance, les deux premières années, j'ai passé un BTS de force de vente. Et depuis mes 20 ans, 22 ans, j'ai travaillé dans l'entreprise familiale qui s'appelait CVP, qui était une société assez similaire à celle que j'ai aujourd'hui, un peu moins basée sur le haut de gamme. Et on construisait des maisons, des piscines, on faisait des rénovations. Et c'était... c'est à peu près toute ma vie sur les chantiers et acquérir une sacrée expérience dans ce domaine.
Donc vraiment, tu étais sur les chantiers, tu avais les mains dans le béton, dans la sciure.
J'ai des anecdotes où, dès l'âge de 10 ans, 12 ans, mon père me laissait avec mon frère sur un chantier et on construisait, on faisait des réseaux d'électricité, on travaillait. Ma mère nous préparait une petite glacière pour avoir le repas de midi et en fait... je vis et je connais et je mange du chantier depuis vraiment mon plus jeune âge.
Bon, et ça te plaît ?
Ça me plaît, c'est des métiers qui sont difficiles, physiquement et moralement et émotionnellement parlant, parce que c'est un métier qui en fait n'a pas de... a énormément d'imprévus, énormément d'impondérables, qui sont la plupart du temps les intempéries, qui sont l'ennemi numéro un de notre organisation de planning, les problématiques de chantier, les problématiques d'interprétation de chacun, c'est-à-dire qu'un architecte va dessiner des plans, dans sa tête c'est bien clair comment se passe et comment va évoluer cette maison. Les clients qui, la plupart du temps, ne sont pas non plus des architectes et n'ont pas forcément la capacité de se projeter ni en 3D ni en 2D, partent avec, en ayant une réelle conviction sur une idée, une interprétation. Et l'entreprise, de la même façon, qui interprète et qui imagine interpréter ce que l'architecte lui donne. Et ensuite, la partie exécution qui, de la même façon, imagine interpréter... Bon, en fait, tout ça veut dire que ce métier est complexe, passionnant par rapport à ce qu'on construit, parce qu'on a quand même, par rapport à d'autres métiers, la capacité de construire et de laisser une empreinte et laisser une...
De laisser des constructions pendant des dizaines, voire des centaines d'années.
Voilà, laisser des constructions pendant plusieurs décennies. Et surtout, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on construit. On construit le foyer de nos clients. Et chose qui est, même si pendant la durée des travaux, puisqu'un chantier dure entre 10 mois et 18 mois, la relation passe par cette difficulté-là qui est la construction. La construction n'est pas une mince affaire dans une vie, aussi bien pour l'entreprise que pour le particulier, le client, qui suit au fur et à mesure l'avancée et les contraintes qui sont le fait de construire.
Donc tu as commencé en nous parlant d'un chantier gigantesque pour Pierre et Vacances. Pour toi, c'est quoi le chantier le plus fou que tu aies jamais eu à réaliser depuis ces 15 ans de BLR ?
Je crois que le chantier le plus fou que j'ai réalisé ou que je devrais réaliser, en fait, il n'y a pas un chantier qui est plus fou. Le dernier chantier que je fais, c'est le chantier le plus fou, en imaginant qu'il est... invraisemblable d'avoir réussi à réaliser ce chantier-là. Mais je me rends compte que je suis assez mordu de cette adrénaline et de l'ensemble de ces challenges et que je pense que le chantier le plus fou est à venir parce que c'est ce qui fait qu'on a encore envie de faire ce métier, de travailler. C'est de ne pas savoir ce qu'on ne sait pas encore. Ce métier est invraisemblable dans la traduction des idées que l'on peut avoir, qui sont couplées avec les idées que peuvent avoir les clients. Et je pense que ce qui fait un peu la différence de mon entreprise et de la façon dont je la gère, c'est qu'on n'a pas de limites, hormis les limites techniques et structurelles d'une construction, mais on n'a pas de limites. C'est-à-dire qu'on a mon job dans la partie commerciale de développement de cette activité, c'est de pouvoir... laisser exprimer mes idées, mes envies, les coupler avec celles des clients, de se différencier en allant chercher chez les clients les idées les plus folles et les envies les plus folles qu'ils pourraient avoir. La chance que j'ai, c'est avec mon expérience et cette ancienneté dans l'activité, j'ai la capacité et les compétences de maîtriser l'intégralité d'un projet dans tous ses corps d'état.
Donc ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que je sais, en me projetant sur un projet, je vois et je sais décomposer naturellement ce qui va être de la partie de la démolition, du terrassement, l'interface entre le gros œuvre, les lots techniques, l'esthétique, l'adaptation de matériaux, l'adaptation de nouveaux matériaux. Quand on fait de la rénovation, la capacité de garder de l'existant, de sublimer l'existant et d'apporter des constructions pour la rénovation qui vont s'intégrer réellement et très rapidement dans le style et dans l'ambiance dans laquelle on voulait aller.
Mais c'est quand même vachement vaste.
Ce qui est vaste, c'est le champ d'activité. Avant ça, je voulais revenir sur ce métier. Ce métier, c'est un métier de construction, mais moi, je le vis aussi comme un métier qui nous permet de rencontrer. Avant tout,
c'est une histoire de rencontre.
C'est des histoires de rencontres. L'important, c'est de pouvoir. La chance de pouvoir rencontrer des gens invraisemblables, des gens formidables, de tout azimut, de toute nationalité. Plus de 50% de mes clients sont étrangers, de toute culture. Et donc, c'est particulier, parce que quand on rencontre des chefs d'industrie ou des personnes qui ont des activités, des parcours de vie invraisemblables, sur lesquels on n'aurait pas du tout la capacité d'y avoir accès, le fait de travailler pour eux personnellement, puisque moi, mon travail, c'est de travailler pour mes clients personnellement, permet de rentrer dans une certaine intimité. Et très rapidement, quand le contact passe, quand la relation est
bonne, enfin,
quand la relation, voilà, quand la relation est bonne, quand le contact passe bien, l'échange qui se fait aussi bien à travers le travaux de la construction, le projet, le contrat qui nous lie avec ses clients, j'ai la chance de pouvoir aussi parler de tout autre sujet, et ce qui me permet de découvrir et d'apprendre beaucoup de l'expérience aussi de mes clients. Et je pense que j'en suis là aujourd'hui par l'expérience que j'ai pu acquérir dans le bâtiment, et aussi de tout ce que j'ai pu aussi acquérir de mes clients, du partage avec mes clients. Très rapidement, on arrive à lier une relation assez saine, et le partage d'expériences me permet de m'enrichir aussi et d'avancer dans ce milieu-là et dans ce monde-là.
C'est vachement intéressant. Est-ce que tu peux me parler de l'itinéraire d'un enfant gâté?
Ah oui, l'itinéraire d'un enfant gâté, c'est mon film de référence que j'essaye, en fait c'est le film, quand j'ai un nouveau collaborateur ou des collaborateurs, s'ils veulent comprendre un peu la façon dont, en fait je sais pas, en fait l'itinéraire d'un enfant gâté, c'est un film qui me touche. J'aime bien le côté dans ce film, le côté autodidacte de l'acteur principal qui est Jean-Paul Belmondo.
Il n'y a pas une scène en particulier.
Parce que... oui. Je vois que vous me connaissez très bien, Imogène. Oui, j'avais oublié réellement. Oui, en fait, c'est ça. Tu as raison. On peut se tutoyer.
Oui, on peut se tutoyer.
Tu as raison. En fait, oui, une des scènes qui m'a le plus marqué, c'est effectivement, je crois que. Ce que j'ai dit avant ne compte pas. Ce qui m'a vraiment plu dans ce film et ce qui m'a touché, c'est un peu ce que je disais avant, la rencontre de mes clients, de chefs d'industrie, de chefs d'entreprise. C'était leur volonté à certains moments de me prendre un peu sous leurs ailes et de m'apprendre et de me donner quelques ficelles de me donner quelques ficelles qui étaient les leurs dans leur succès professionnel. Et une des scènes de ce film qui est assez intéressante, et c'est quand Jean-Paul Belmondo se sert de Richard Anconina pour réinvestir son entreprise et le former. Donc Richard Anconina n'a aucune compétence pour devenir chef d'industrie, et Jean-Paul Belmondo lui apprend une chose la plus importante, c'est de ne jamais être surpris. Et je pense que ce qui fait aussi un peu aujourd'hui ma réussite est la capacité d'avoir ces clients-là, cette catégorie de clients, ces gens importants, qui la plupart du temps peuvent impressionner, ont un sacré charisme. Et ce travail-là, c'est inné chez moi et assez naturel maintenant, de ne jamais être surpris, lève beaucoup de barrières. et me permettre d'avoir la capacité de pouvoir continuer à m'exprimer sans être perturbé ou influencé par le poids que peut être le charisme de certains de mes clients. J'espère que je me suis bien fait comprendre.
Ouais, je pense à une anecdote en particulier, c'est quand tu as construit une piscine et les carreaux étaient en or.
En fait.
Et raconte-nous cette histoire, parce que c'est assez rigolo.
En fait, c'était suite à la construction du village de Pierre et Vacances. Monsieur Brémond, le PDG de Pierre et Vacances, m'a ouvert son carnet d'adresses auprès de certains grands architectes et sociétés de maîtrise d'œuvre. Et donc, je me suis retrouvé à travailler avec une société sur Nice qui s'appelait la Somerco, une société de maîtrise d'œuvre. Et Michel Bentouza, le patron de cette entreprise, m'a mis sur un chantier à Villefranche-sur-Mer, le Château Madrid, sur laquelle on avait la chance de travailler en collaboration avec un des plus grands décorateurs au monde aujourd'hui, qui est Jacques Garcia. Non pas Sergent Garcia, mais réellement Jacques Garcia. Et lors de réunions de chantier en présence de Monsieur Garcia, sur lequel moi, sur ce chantier, je m'occupais de la rénovation de la piscine, construction d'un jacuzzi, la construction d'un espace aqualudique avec un hammam, un sauna, Monsieur Garcia demande et exige que la piscine soit en feuille d'or, donc en revêtement d'or. Chose qui m'a réellement, au fond de moi, surprise. Et il fallait à tout prix que je puisse rebondir sur ça et prendre la main sur ce... sur la réunion, puisque c'était à mon tour et on parlait de la piscine. Et donc, à ce moment-là, instinctivement et assez rapidement, j'ai demandé de suite à Monsieur Garcia s'il voulait qu'on fasse ça en or jaune ou en or blanc. Le fait que je lui pose cette question l'a un peu surpris, puisque lui, de son côté, connaissant les réalisations que faisait Monsieur Garcia, forcément, c'était du bling-bling et de l'or jaune. Mais là, du coup, il m'a répondu, bien sûr, de l'or jaune. Et il me restait une dernière carte à jouer pour être sûr que je récupère ce marché-là, qui était un marché invraisemblable. Et là, je l'ai questionné sur le sens de pose des carreaux, en lui demandant si on mettait des carreaux en joint aligné ou si on les mettait en quinconce pour avoir un meilleur résultat de continuité de la feuille d'or. Et après un petit moment d'hésitation, il m'a demandé si on était capable de le faire en joint décalé. Je lui ai dit bien sûr. Et chose que je ne savais vraiment pas au moment où je répondais à cette question. Et à ce moment-là, la relation vraiment professionnelle et la relation avec Monsieur Garcia s'est faite. Et après quelques recherches et quelques travaux assez complexes, on a réussi à construire cette piscine en or jaune avec des joints décalés et qui est une réussite esthétique sous réserve du goût de chacun, mais c'était un challenge invraisemblable et une anecdote qui marquera vraiment l'activité de BLR par rapport à mon personnel, parce que on arrivait, mes très bons carreleurs qui se retrouvaient à construire une mosaïque de piscine en or. C'était pour eux une sacrée fierté, une sacrée reconnaissance de leurs compétences. Et c'était une belle, très 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 belle aventure.
Ouais, c'est impressionnant. Est-ce que c'est vrai que les carreaux, ils étaient gardés par des gardes du corps ?
Alors, au niveau de mes différents clients, indépendamment des travaux qu'on nous demandait, je devais m'adapter aussi à des façons certains de mes clients sont gardés, sont protégés. Sur le Château Madrid, était une forteresse gardée par une armée
ah ouais
privée du client. Et effectivement, c'était une partie du service d'ordre qui portait les paquets de carreaux et qui fouillait le matin en arrivant mes employés et qui fouillait en sortant mes employés. Il faut savoir que pour une piscine qui faisait, je pense, à peu près 60 mètres carrés de plan d'eau, l'équivalent d'une piscine de 11 par 6, il y avait à peu près 120 mètres carrés de revêtement piscine. Et je ne m'en rappelle plus exactement, mais je pense que le budget de fourniture de cette mosaïque-là dépassait, je pense, les 500 000 euros.
Mmh, ouais, je m'en rappelle.
Donc du coup, je comprenais bien. Enfin, c'était, ça faisait partie aussi. Enfin, le côté extraordinaire et exceptionnel de ces constructions font partie aussi de l'ambiance dans laquelle ça se fait. Et d'avoir des gens qui vous fouillent et qui vous fouillent à l'entrée, qui vous fouillent à la sortie, rendait encore plus ce chantier exceptionnel et exclusif.
On postera les photos du chantier sur la page blog de l'épisode. Ah, comme ça, les auditeurs pourront voir à quoi ça ressemble. Bon, eh ben écoute, ça c'est assez impressionnant. Enfin, j'imagine qu'on aura le temps de développer d'autres anecdotes au fur et à mesure de ce podcast. Mais pour toi, enfin, qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui au niveau de tes constructions ?
Aujourd'hui, ce qui m'inspire le mieux, c'est les rénovations et les transformations. On a énormément de compétences sur des constructions neuves. La plupart du temps, on travaille donc en partenariat et on est constructeur de l'architecte de nos clients ou on peut proposer nous aussi quelques partenaires architectes à nos clients. Mais le côté, quand on fait une construction neuve, la partie graphique, la partie artistique est plutôt donnée à l'architecte. Et nous, on intervient avec nos compétences sur la construction tout corps d'état. Donc ça, c'est un travail qui est intéressant. On fait de très, 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 très belles constructions. Mais ce qui me plaît le plus aujourd'hui, ce qui est un peu dans l'air du temps, étant donné qu'il y a de moins en moins de terrains fonciers, de terrains à construire neufs, la plupart du temps, maintenant, nos clients achètent des maisons existantes sur des emplacements assez extraordinaires. Et là, du coup, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à transformer. J'aime beaucoup me projeter à travers un bâti existant et d'arriver à le sublimer au-delà de l'entendement de nos clients, et aussi bien au niveau de la construction que surtout au niveau des piscines. On a une capacité à transformer des piscines assez banales en piscines extraordinaires qui devient...
Tu rénoves les piscines.
On rénove et on reconstruit les piscines. D'accord. C'est-à-dire qu'on va transformer, vous pourrez mettre sur le blog des projets de transformation de piscines lambda rectangulaires, presque dans la caricature avec les frises romaines et les dauphins au fond, en faisant des piscines. On arrive à les transformer en piscines miroirs, en débordement de chaque côté, avec des couleurs de carreaux et des revêtements assez intéressants pour s'intégrer vraiment dans le paysage de la propriété. On sait les agrandir, on sait les raccourcir, on sait revenir sur des aberrations qui se faisaient il y a une trentaine d'années où il fallait avoir des fosses à plonger et des piscines très profondes, qui est une hérésie aujourd'hui, puisque 100% des piscines que l'on construit aujourd'hui, aussi bien en construction neuve qu'en rénovation, on travaille sur des fonds plats dans lesquels tout le monde à pied, avec un niveau d'eau de 1,45 m à peu près, ce qui permet d'utiliser la piscine comme un réel espace de jeu, sans avoir sans avoir le risque d'imaginer devoir viser l'endroit où on plonge.
Il y a des styles particuliers que tu affectionnes le plus ?
J'ai pas de style particulier. Pour moi, la meilleure intégration, le meilleur projet, c'est celui qui va me permettre d'aller à la limite maximum techniquement de ce qui est la transformation ou la rénovation du bien, c'est-à-dire d'aller utiliser au maximum nos compétences et les techniques que l'on a aujourd'hui pour pouvoir transformer et rénover un bien. Et ensuite, le plus beau projet, c'est celui qui correspond aux attentes et aux envies de mes clients, puisque nous, on propose, on construit, mais derrière, ce n'est pas nous qui allons les utiliser. Et aujourd'hui, ce qui est important dans le style, c'est d'apporter... Donc moi, je suis assez sobre et assez partisan que la construction et la technicité la plus simple restera fait en sorte, enfin, en travaillant dans cet état d'esprit, les projets restent assez intemporels. J'aime pas trop travailler avec des, surtout ce qui est phénomène de mode, parce qu'on s'en lasse vite. Et la construction est suffisamment contraignante pour qu'une fois qu'on a construit, on n'ait pas à se reprojeter au moins sur les 20 prochaines années. Et on n'a pas besoin de revenir sur ce qu'on a construit. Et moi, je pars surtout au niveau de la piscine en utilisant des technologies simples pour que la piscine soit simple, simple à être utilisée et surtout esthétique. Et le graphique esthétique de la piscine, on le gagne réellement sur les artifices que l'on va mettre en place en créant des débordements, en créant des effets miroirs, pas forcément en créant des designs invraisemblables. La piscine, je dis toujours que la piscine la plus belle du monde, c'est la piscine la plus simple du monde.
Si tu devais apprendre une nouvelle compétence et tu pouvais claquer des doigts et apprendre quelque chose de nouveau, ce serait quoi ?
Le dessin. Le dessin. J'ai la chance d'avoir un partenaire avec moi depuis plus de 10 ans, qui est un artiste sur lequel on arrive à travailler en binôme. Donc c'est Thierry Moreau. Thierry Moreau est un architecte hors pair et surtout un dessinateur hors pair. Et grâce à Thierry, on arrive à faire des... Il arrive à transcrire nos idées, les siennes aussi, qui sont tout le temps très bonnes. Et on arrive à présenter à nos clients des aquarelles en perspective de nos projets.
Des aquarelles, c'est-à-dire dessiner à la main.
C'est dessiné à la main et c'est peint à la main. C'est vraiment des aquarelles. L'avantage de ces aquarelles, c'est que ça apporte directement l'âme de ce qu'on veut, de ce que l'on veut transmettre pour nos clients, avec la chaleur des couleurs, avec la précision du trait que peut avoir Thierry. Et aujourd'hui, si je devais avoir une baguette magique, et je jalouse assez le talent que peut avoir Thierry, et j'aimerais avoir cette capacité à pouvoir transcrire sur papier toutes les idées et tout ce que j'ai dans la tête. Donc ça me lèverait un peu de frustration, où je suis obligé pour pouvoir exercer et pour pouvoir présenter nos idées, travailler avec Thierry, ce qui est assez formidable en soi. Mais des fois, j'ai plus d'idées à la seconde que ce qu'il a la capacité de dessiner. Et si j'avais une baguette magique, j'aimerais arriver à avoir ce talent-là et ce don-là de pouvoir mettre sur papier toutes les idées qui peuvent me traverser quand on est surtout sur les premières visites et les premières rencontres avec nos clients, pour éviter de les saouler, parce que je les saoule énormément et je les fais partir très loin dans l'évolution de leur projet. Et heureusement que Thierry est là pour remettre les choses à plat et sur papier. Et en fait, la base de tous nos projets passe par un dessin et par une aquarelle. Et ensuite, plus classiquement, la traduction sur des plans et des plans et après, de construction.
Et après un devis.
Après, forcément. Et l'avantage que j'ai aussi, c'est qu'on peut aller assez vite grâce au dessin de Thierry ou à travers ses premières esquisses et ses premières perspectives. Très rapidement, on peut entamer les phases de quantification et de chiffrage, ce qui est vraiment important pour nous. Parce que de la même façon où je pense que la piscine la plus belle, c'est la piscine la plus simple, pour moi, le projet le plus beau, c'est pas le projet qui est le plus cher, c'est pas le projet qui est le plus invraisemblable, c'est le projet qui correspond à la demande de nos clients, au budget de nos clients. Et vraiment, on arrive à... Pour moi, c'est très important que systématiquement, quand on présente un projet, ce projet soit bien en adéquation entre les attentes et les envies de nos clients, traduit à notre sauce avec toutes les surprises notre capacité de faire évoluer les idées et les volontés de nos clients grâce à mes idées, grâce à nos idées, grâce aussi au mais surtout de présenter systématiquement des projets qui sont réalisables et techniquement et financièrement parlant. La vraie réussite d'un projet, c'est quand on respecte tous ces critères-là.
Oui. Oui. Et comment tu te positionnes par rapport aux architectes ? Parce que là, tu parles de dessin. Mais est-ce que tu, enfin, je veux dire, est-ce que tu travailles aussi avec des archis et comment tu travailles
aujourd'hui, dans ce contexte ? Aujourd'hui, on a, enfin, les architectes sont nos partenaires. Premièrement, nous sommes entreprise de construction. On n'est pas architecte. Je ne suis pas architecte. La capacité aujourd'hui, donc BLR, la clientèle de BLR ne s'est créée que du bouche à oreille, essentiellement du bouche à oreille. Donc on a des clients qui viennent nous voir, qui ont leurs architectes, et là on va travailler en partenariat avec l'architecte, sur laquelle l'architecte sera le concepteur et le maître d'œuvre du chantier, et nous nous comportons en tant qu'entreprise principale. N'empêche pas qu'on peut apporter nos idées, et surtout au niveau des choix de matériaux, au niveau des compétences que l'on a pu acquérir et que l'on peut mettre à disposition de notre partenaire architecte et du client final. Mais ça nous arrive aussi que nos clients viennent nous voir et nous demandent de faire un peu de conception, surtout sur les rénovations de piscines, sur les extensions, sur les rénovations, où c'est des chantiers un peu moins importants, mais là, on a la chance d'avoir une partie de notre clientèle qui nous donne l'émission complète. Donc, la capacité de faire une conception, de déposer un permis construire ou une déclaration de travaux, chose que l'on fait avec Thierry. Et donc, du coup, sur certains de nos projets, on intervient en tant que concepteur et constructeur. On n'est pas du tout en concurrence et en compétition avec nos clients et partenaires, surtout avec nos partenaires architectes, mais on est, c'est une compétence que l'on a et que l'on peut utiliser et que l'on utilise.
Et au niveau de ton travail, c'est par rapport à tes compétences et tout ça, c'est quoi l'endroit le plus... Le lieu géographique le plus fou où ça t'a amené?
Alors, la plupart du temps sur la Côte d'Azur, on va dire notre cercle de d'activité géographiquement, on va travailler, on va dire de Menton jusqu'à à peu près c'est Menton, Luberon et voilà, Menton, Luberon et bord de mer sur un rayon, on va dire, de 150 à 200 km autour de Saint-Cyr-sur-Mer, là où on a notre bureau. Il m'est arrivé d'aller travailler en Aquitaine, donc pour la rénovation d'un château et surtout sur les rénovations et la conception d'ouvrages aqualudiques et d'ouvrages esthétiques sur un château dans le Bordelais.
Je pense qu'on aura le temps d'en parler.
On pourra en reparler sur ce chantier, qui était un chantier assez exceptionnel, sur lequel on a été aussi bien concepteur et réalisateur. Ensuite, après mon expérience Pierre et Vacances, j'ai travaillé aussi pour Four Seasons. Donc ça m'a amené à aller faire des études de bassin, des faisabilités de bassin sur l'île Maurice. On a travaillé... mais après...
Je pense même que tu as même donné un conseil pour des piscines à Bali aussi.
Oui, on a donné des conseils sur des piscines à Bali, sur des piscines écologiques. Mais on voyage tout en restant sur la Côte d'Azur. On voyage énormément parce que nos clients sont, eux, la plupart du temps, internationaux. Et on doit s'adapter. Donc, tout en restant ici, on communique énormément avec des clients britanniques, des clients asiatiques, des clients américains. On a des clients... De toute nationalité, ça nous permet aussi de se déplacer pour les rencontrer dans les phases études, de se renseigner sur les cultures. On a mis en place, on a travaillé sur le feng shui quand on avait des clients asiatiques. On a travaillé différentes techniques pour s'adapter, essayer de comprendre aussi les attentes des clients qui sont selon les cultures et selon les cultures différentes de ce qu'on peut avoir. De ce qu'on peut connaître, mais le lieu géographique est peu important pour moi. Je veux dire, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des équipes mobiles, l'ensemble de notre personnel est mobile, et surtout, on répond assez favorablement à la continuité de ce bouche à oreille. Donc on ne sait jamais trop où, quand le téléphone va sonner ou le mail va arriver, sur quel lieu géographique on devra exercer. Mais la chance d'avoir ce personnel mobile, puisqu'on l'ensemble de mon personnel est logé par l'entreprise. Et assez facilement, qu'ils soient logés en Aquitaine ou logés sur la Côte d'Azur, pour eux, ça change pas grand-chose. Voilà, après, c'est moi qui dois me déplacer et c'est cette organisation-là qui est à mettre en place. Mais on n'est pas limité.
C'est intéressant. Et pour clôturer ce premier petit entretien, je me demandais si tu avais un mantra ou une citation qui te guide dans ta vie.
Alors j'en ai plusieurs, mais celle qui résonne réellement et qui est un peu ma philosophie de pensée, et c'est celle qui me permet de pouvoir me lever tous les matins. C'est une expression, on a eu la chance de passer un bout de notre vie, une partie de notre vie en Indonésie, à Bali, et un ami, des amis m'ont présenté une citation qui depuis me fait réellement réagir. Alors elle est un peu compliquée, j'ai essayé de pas trop me tromper dedans. C'est « on sait ce qu'on sait, je sais exactement ce que je sais faire. On sait ce qu'on sait pas, je sais exactement ce que je ne sais pas faire. J'aurais réellement du mal à conduire un hélicoptère ou à piloter un avion. Mais par contre, on sait pas ce qu'on sait pas. » Et le fait de... Et c'est en fait la signature et la continuité. Enfin, ça représente réellement...
Attends, on la répète.
Oui, on la refait. Donc, on sait ce qu'on sait.
Ouais.
On sait ce qu'on sait pas, mais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et en fait, le fait de ne pas savoir ce qu'on ne sait pas encore, c'est ce qui nous réserve toutes les surprises de la vie et qui nous dit que c'est réellement ce qui nous permet de pouvoir se lever tous les matins, de faire ce qu'on sait faire, d'essayer d'apprendre ce qu'on ne sait pas faire, mais à tout moment, on peut être confronté à des choses qui réellement, le matin en se réveillant, mais impossible de penser qu'on était capable de le faire ou capable d'y accéder. Donc c'est vraiment ça, on va dire. Alors une citation, cette citation, qu'on sait ce qu'on sait, on sait ce qu'on sait pas, mais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas.
C'est pas mal, ça fait à méditer.
À méditer, exactement.
Bon ben merci Jean-Marc d'avoir été l'invité de Chambre avec Vue aujourd'hui. Et puis j'espère que tu reviendras bientôt pour qu'on puisse parler d'autres choses et éventuellement des questions que des auditeurs auraient sur des techniques de construction, sur tout ce qui gravite autour de la construction, l'architecture, le design, et auxquelles tu pourrais répondre.
Ben, ça serait avec plaisir et c'est assez intéressant.
Ouais, ben, au niveau bouche à oreille, on peut pas faire mieux. Puisque on est en podcast. Voilà, bah écoute, merci beaucoup Jean-Marc et à très bientôt.
Merci à toi.
Ciao. J'espère que vous avez apprécié cette conversation avec Jean-Marc Barnot et que cela vous donne envie d'en écouter d'autres. Comme je disais dans l'introduction, le but n'est pas du tout de faire une promotion tous les mois de notre entreprise. Au contraire, c'est de découvrir de nouveaux designers, de nouveaux architectes, des paysagistes, des décorateurs, des décoratrices, des professionnels de l'immobilier, pour que vous ayez vraiment un aperçu global de notre de la maison de vos rêves en général, et peut-être que vous pouvez trouver quelques idées dans tout ce qu'on raconte. Je vous invite à venir consulter la page web de cet épisode. Elle est sur blrinternational.com, sur la rubrique podcast. Vous pouvez trouver les liens dans votre application de téléphone. Il faut faire défiler l'application et vous allez avoir les notes de l'épisode. Vous trouverez tous les liens. Donc vous trouverez le lien vers notre site blrinternational.com, mais aussi sur nos comptes de réseaux sociaux, donc Instagram BLR International et Facebook @BLR International, tout attaché. N'hésitez pas, donc je disais, à vous abonner, ça nous aide beaucoup, et puis à parler autour de vous de ce podcast. Et je vous donne rendez-vous dès le mois prochain pour un nouvel épisode de Chambre avec Vue. Et dans cette attente, je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao.